Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger et l'Allemagne va changer de chancelier. Le parti d'Olaf Scholz a en effet subi un revers lors des élections législatives. Le SPD termine en effet à la troisième place avec 16% des votes. C'est la droite de la CDU qui est arrivée en tête avec 30% des suffrages devant l'extrême droite de l'AfD qui en totalise 20%. Avant de devenir chancelier, le leader de la CDU, Friedrich Merz, va devoir s'atteler à construire une coalition pour gouverner puisqu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Si Friedrich Merz dit ce soir qu'il veut un gouvernement le plus rapidement possible, eh bien sans majorité absolue, le voilà donc contraint de former une coalition. Il faut dire que c'est quand même une habitude en Allemagne. La question, c'est avec qui ? Cela dépendra tout d'abord des résultats définitifs. Le futur chancelier a déjà commencé à négocier, notamment avec les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz, qui remporte un peu plus de 16% des voix. C'est une défaite cuisante pour celui qui va rendre son tablier de chancelier. Une chose est sûre, s'il n'est pas question pour la CDU d'une alliance avec l'extrême droite, et cela malgré la main tendue d'Alice Weidel qui dit que son parti, l'AfD, est prêt à gouverner. L'alternative pour l'Allemagne qui réalise un score historique, 20,5% du jamais vu depuis l'après-guerre, l'AfD devient ainsi la première force d'opposition en Allemagne en doublant son nombre de sièges au Bundestag, soit 142 sur 630. Le parti d'extrême droite, porté notamment par sa ligne dure sur l'immigration après la série d'attaques terroristes dont a été victime l'Allemagne ces derniers mois.
Emmanuel Macron attendu à Washington dans les heures qui viennent. Le président de la République va s'entretenir à la Maison-Blanche avec Donald Trump avec deux dossiers prioritaires, la question des droits de douane entre la France, l'Europe et les États-Unis et bien sûr le dossier ukrainien. Alexandre Chauveau.
Sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron veut d'abord alerter Donald Trump sur le danger qu'il y aurait à céder à Vladimir Poutine.
Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine ?
Et le convaincre de la nécessité d'obtenir une paix durable et crédible pour l'Ukraine. Le chef de l'État souhaite aussi des garanties de sécurité pour Kiev en cas de cessez-le-feu, mais aussi que l'Europe soit intégrée à l'accord de paix. Autant d'exigences loin d'être acquises pour un Donald Trump qui souhaite avant tout se réconcilier avec Moscou et qui reproche aux 27 leur manque d'investissement pour arrêter la guerre. L'Élysée met en avant l'antériorité des relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump, outil sur lequel le président français devrait s'appuyer pour discuter également de l'augmentation des droits de douane. La menace brandie par Trump depuis sa campagne pourrait devenir concrète dans les prochains mois. Entre alliés, on ne peut pas faire souffrir l'autre. Voilà ce qu'Emmanuel Macron promet de dire à Trump. Et ce, malgré l'absence de signaux envoyés par le président américain pour infléchir sa promesse de campagne « America first ». L'Amérique d'abord.
En métropole, l'enquête se poursuit après l'attentat terroriste sur le marché de Mulhouse. Le principal suspect, un Algérien sous OQTF, a poignardé plusieurs personnes. L'une d'entre elles est décédée, 7 autres ont été blessées. Le suspect a été arrêté, il est en garde à vue avec 3 autres personnes. Mélina Fachin pour Europe 1.
Il s'agit de 3 hommes, selon les informations d'Europe 1. L'un d'entre eux est le frère de l'assaillant. Il y a également la personne qui hébergeait ici à Mulhouse le suspect, qui était, on le rappelle, sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence. Il s'agit évidemment pour les enquêteurs du parquet national antiterroriste de savoir si le suspect principal avait des complices. Dans le cas d'une attaque terroriste, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures et même exceptionnellement être encore prolongées jusqu'à 144 heures, soit 6 jours après l'arrestation du ou des suspects.
Il est 11h55, une nouvelle pause dans ce journal. On ouvre ensuite notre magazine des sports du lundi. Et je vous rappelle qu'après le Mag des sports, vous retrouverez l'intégralité de l'entretien que Manuel Valls a accordé à Radio Rythme Bleu ce matin.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale. Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et voici à présent le magazine des sports.
Le rugby est à la une aujourd'hui avec la suite du tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
C'était la troisième journée de compétition ce week-end et le 15 de France a tenu son rang en surclassant l'Italie, Michael Gineschi.
Et oui, une victoire très large, hein, même sur le score de 73 à 24. 11 essais à la clé en faveur des Bleus, dont un essai du Calédonien Peato Mauvaka, se sont également illustrés en allant aplatir derrière la ligne d'en-but italienne Michael Guillard, Paul Boudéan, Louis Bielbiaret, Grégory Aldrit ou encore Léo Barret et le capitaine Antoine Dupont qui ont signé un doublé chacun. Bref, un festival et des jeunes à l'honneur avant d'aller défier l'Irlande, leader du classement de ce tournoi des Six Nations, où pourrait d'ailleurs se jouer la victoire finale. On écoute la réaction du sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié.
Une réaction très positive, la satisfaction, le plaisir, la joie d'avoir réussi cette performance à Rome avec ces joueurs-là. Le mot d'ordre, en fait, aujourd'hui, c'était bien sûr l'équipe de France, on doit performer, on doit gagner les matchs, mais ça n'enlève pas la possibilité de se sentir libre, et ce que j'aurais demandé, d'être joyeux, et tout ça, ça peut faire de la force. Nous, on va se concentrer déjà sur la récupération. Bien sûr, on va préparer l'Irlande. C'est un adversaire qu'on n'a pas battu depuis quelques temps maintenant. Et c'est un adversaire qui domine la compétition.
Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France. Les tricolores qui sont donc deuxièmes du classement derrière l'Irlande, toujours invaincus dans le tournoi. Les Irlandais qui l'ont emporté ce week-end chez les Gallois, 27 à 18. Tandis que l'Angleterre a battu difficilement l'Écosse, 16 à 15.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Le rugby toujours, puisque le top 14 se poursuit pendant le tournoi Destination et l'UBB s'est imposé sur Clermont en clôture de la 17e journée ce matin.
Oui, l'Union Bordeaux-Bègles, l'ancien leader, désormais retombé à la 3e position au championnat de France, qui l'a emporté à domicile face à l'AS Clermont, 6e. Victoire des Girondins 22 à 18 pour ne pas être distancé par Toulouse et Toulon en tête du classement. Le Stade toulousain qui, même privé de ses internationaux, tient fermement les rênes du championnat de France avec un large succès sur Bayonne 41 à 6. Toulon, de son côté, a battu le Stade français 24 à 6. Encore des victoires à domicile pour Castres face à Lyon, 30 à 25. Pour la section paloise sur Perpignan, 23 à 6. Et pour les promus bretons de Vannes sur Montpellier, 37 à 24. Seul le Racing 92, ce week-end, a réussi à s'imposer à l'extérieur sur la pelouse de La Rochelle, 26 à 21. Alors, en tête du championnat de France, Toulouse s'envole devant Toulon, l'UBB. Bayonne est au pied du podium. Castres et Clermont complètent le top 6. En bas de tableau, Vannes et le Stade français sont bons derniers à égalité de points. Avantage au Gavelage en faveur des courageux bretons qui peuvent espérer se maintenir dans l'élite après une première partie de saison difficile.
L'actu foot maintenant avec la Ligue 1 et Nantes qui retrouvent des couleurs face à Lens.
Mission accomplie pour les Canaries qui devaient se reprendre pour le compte de la 23e journée du championnat de France. Une semaine après la très lourde défaite subie à Monaco, 7 buts à 1. Les Nantais ont su se remobiliser pour décrocher une victoire importante face à Lens, 8e du classement, 3 buts à 1 en faveur des Nantais. Un succès précieux pour remonter à la 14e place, mais pas de quoi s'enflammer pour le coach de Nantes, Antoine Comboiré.
J'oublie pas la claque qu'on a prise le week-end dernier. Et comme je l'ai dit aux joueurs, donc, quand vous prenez une telle fessée, donc, on la boucle et puis on travaille. Et voilà donc le résultat de la semaine de travail où les joueurs ont fait un grand match. Quand tu subis une espèce d'humiliation avec cette défaite 7-1, c'est lourd. Mais ce sont que 3 points de perdu, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Là, on est super contents. Mais on n'a pris que 3 points, donc on ne va pas se la raconter, on ne va pas s'enflammer.
Les autres résultats du jour, une victoire de Toulouse sur le terrain du Havre, 4-1. Nice a repris la troisième place en dominant Montpellier 2-0. Strasbourg et Brest ont fait un match nul, 0-0. Et puis enfin, l'affiche en clôture, le Paris Saint-Germain, leader, a été accroché par Lyon mais a réussi à l'emporter 3-2. De quoi engranger de la confiance avant d'enchaîner les matchs contre Saint-Brieuc en Coupe de France, Lille en championnat de France et dans la foulée, les Reds de Liverpool en Ligue des Champions. Paris qui devance de 13 points au classement l'OM sur le podium, les Marseillais dominés ce week-end par Auxerre, 3-0, et de 16 points l'OGC Nice, alors que Lille est quatrième après sa victoire 2-1 sur Monaco, qui descend à la cinquième place. En bas de tableau, Montpellier et Lanterne Rouge, le Havre 17e et Saint-Etienne 16e.
Et puis on fait aussi le point sur les autres championnats européens avec les principaux résultats.
On va commencer par l'Angleterre et les Reds justement de Liverpool qui s'affûtent avant les joutes européennes. Liverpool qui a battu Manchester City sur le score de 2-0. Everton et Manchester United ont fait un match nul, 2-2. Arsenal, de son côté, s'est incliné face à West Ham, 1-0. En Allemagne, le leader de la Bundesliga reprend sa marche en avant. Succès du Bayern Munich sur Francfort, 4-0. En Italie, Naples s'incline sur le terrain de Côme, 2-1. Et la Juve l'emporte de peu sur Cagliari, 1-0. L'Inter Milan est en tête du calcio après avoir battu Genoa, 1-0. L'Espagne, enfin, avec ce succès du Real Madrid sur Gérone, 2-0. L'Atlético de Madrid a dominé Valence hier 3-0. Et enfin, le FC Barcelone l'avait emporté à Las Palmas 2-0.
Allez, on va parler maintenant de la fin des mondiaux de biathlon et l'équipe de France qui termine avec 13 médailles en tête, évidemment, du classement des nations.
Ouais, malheureusement, pas de médaille d'or aujourd'hui pour les Français à l'issue de la Mastart, dernière épreuve de la compétition chez les féminines. Océane Michelin a tout de même décroché l'argent en finissant derrière la Suédoise Elvira Weberg. Chez les messieurs, le meilleur tricolore, Éric Perrault, a terminé à la 7e place. Alors, le record de Breloque n'est pas battu. Il reste à 13 récompenses pour les Français. Mais avec 6 titres de champion du monde, les Bleus finissent tout de même en tête du classement des médailles dans ces championnats du monde, juste devant la Norvège et la Suède.
Et puis un mot de tennis pour vous signaler qu'Alexandre Muller s'est incliné en finale de l'ATP 500 de Rio de Janeiro au Brésil. Le Français a perdu face au tenant du titre argentin Sébastien Bèze, 6-2, 6-3. L'événement de la semaine sur le territoire, ce sera l'Open International de Squash qui débute aujourd'hui Salpicou. On en parle avec nos invités juste après la pause.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la Province Sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
L'Open International de Squash des 40 ans de la Salpicou, c'est tous les soirs de la semaine et samedi après-midi au Squash Club de l'Olympique à Sainte-Marie. Trois membres de l'équipe de France et la numéro 1 malaisienne, tous professionnels du circuit, rencontrent les meilleurs joueurs et joueuses du territoire. Entrée gratuite, info sur la page Facebook Olympique Squash.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
C'est donc l'événement de la semaine, l'Open International de Squash qui débute aujourd'hui Salpicou et nous allons en parler avec nos trois invités, Michael.
Oui, absolument. Laurent Vendée, tout d'abord, organisateur de ce tournoi. Bonjour.
Bonjour et merci RRB. On est toujours bien reçus chez vous et le squash est toujours très bien couvert. Merci.
C'est très bien dit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, deux invités venus à cette occasion. Il s'agit notamment de Baptiste Mazzotti, le numéro 2 français. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour à vous et merci de nous recevoir. C'est toujours un plaisir de parler du squash à la radio ou n'importe où.
Ah bah décidément, on est bien félicités. Et puis également à vos côtés, Nora qui a également accepté notre invitation. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup.
Alors voilà, on va parler de cette Open International de Nouméa qui débute. Laurent Vendée, tout d'abord, un événement avec dès aujourd'hui une forte pensée pour un ancien joueur. Évidemment, tous les Calédoniens se souviennent et c'était important de marquer aujourd'hui une commémoration en mémoire d'Enzo Corigliano, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, on a vécu tous regroupés sur la tombe d'Enzo un moment émotionnellement fort. À la demande des joueurs qui sont venus principalement du territoire français métropolitain et qui connaissaient très très bien Enzo, ces joueurs ont demandé, puisqu'ils étaient de passage sur les territoires, à pouvoir bénéficier d'un moment de recueillement et d'hommage à Enzo. Et donc on a convié la communauté squash à ce moment-là, qui s'est déroulé ce matin à 11h. C'est pour ça qu'on est un peu déconfit physiquement, heureusement qu'on est en radio.
Absolument, c'est pour ça, quelque part, c'est grâce à lui encore qu'un événement avec des invités de prestige, hein, deux d'entre eux sont dans nos studios, ils ne sont pas les seuls. Baptiste Mazzotti, vous êtes le numéro 2 français, à quelques ajustements près, hein, vous reviendrez là-dessus plus tard, 23e mondial, et Nora Villard, 3e meilleur français, 59 mondial, en tout cas au dernier classement qu'on avait sur l'affiche. Également présent, Auguste Dussourd, numéro 5 français, et puis la malaisienne, je vais essayer de ne pas faire de bêtises sur son nom, Sivasangari Subramaniam, j'espère que je le dis bien, numéro 10 mondial, je m'en suis bien sorti. Baptiste Mazzotti, vous connaissiez Enzo, et c'était important pour vous de participer, de répondre présent pour cette invitation.
Non, bien sûr, comme on en a discuté tout à l'heure, le tournoi ici qui est organisé cette semaine, moi pour ma part en tout cas, je suis venu pour deux raisons. C'est d'abord pour Laurent aussi qui organise ce tournoi et avec qui j'ai vraiment des bons atomes crochus, on s'entend très bien, donc c'est un réel plaisir de venir pour lui. Et puis aussi de venir pour rendre hommage à Enzo, parce qu'on n'a pas pu le faire. On était quand c'est arrivé, on était en tournoi, et puis après c'est pas la porte à côté, la Nouvelle-Calédonie, donc on est beaucoup amené à voyager dans le monde, mais on est rarement amené à voyager dans ce côté-là du globe, donc voilà, c'était important, je pense, pour nous de pouvoir venir jouer sur son île et de pouvoir donner un peu de sourire aux gens qui sont passionnés de squash comme Enzo l'était.
Et Nora, c'est un peu le même cas de figure. Et puis, en même temps, tous les deux, vous êtes professionnels, évidemment, donc ça ne se décide pas comme ça, comme on prépare une saison. C'est aussi le fait que ce tournoi, cet Open international de Nouméa, il va arriver au bon moment dans une petite tournée du Pacifique, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. On a un calendrier très chargé. Mais c'est vrai que là, ça a tombé vraiment bien, le fait qu'on ait les tournois ensuite en Nouvelle-Zélande et en Australie. Du coup, ça permet de venir un petit peu plus tôt, parce que le décalage horaire, bon, il y a quand même entre 10 et 12 heures en fonction de Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que d'être là une bonne semaine avant, déjà, ça nous permet de nous acclimater, d'avoir des bons matchs d'entraînement. Et puis voilà, comme le disait Baptiste, c'est aussi une aventure humaine d'être avec des gens qu'on apprécie, et puis pouvoir rendre ce petit hommage à Enzo et pouvoir venir lui dire à avoir sur son île, c'était important aussi.
Laurent Vendée, ce tournoi, il arrive également pour les 40 ans de la Salpicou. Toute une histoire, hein, toute une page de l'histoire du squash en Nouvelle-Calédonie. Il fallait marquer le coup, il fallait trouver un événement d'envergure.
Ah oui, bien sûr. Les 40 ans de la Salpicou, on voulait le fêter dignement. Donc la salle à 40 ans, elle a été construite par les bénévoles de l'Olympique à l'époque. Elle a bénéficié d'une extension pour les Jeux du Pacifique en 2011. Et elle a porté le squash calédonien pendant des décennies et des décennies. Elle a notamment accueilli les Jeux où les Calédoniens ont raflé les médailles. Donc la Salpicou, elle fait partie du patrimoine sportif de Calédonie.
Alors évidemment, cet événement, ça va durer toute la semaine. Nos invités ne connaissent pas encore, mais il faut bien le dire, ça va être surtout une belle ambiance. Tous les passionnés, même le grand public à chaque fois, les tournois qu'on peut suivre. C'est ça aussi qui fait le petit plus ici des compétitions.
Ah oui, on a une communauté squasheurs, squasheuses très, très dynamique. Elle est très solidaire, donc les squasheurs seront là, le public sera là, on l'espère. Et puis c'est un gros tournoi, hein, 70 participants, il va y avoir environ 200 matchs dans la semaine. On va pas s'ennuyer dans la joie, dans le respect de l'adversaire et dans la convivialité, ce qu'on a toujours fait au squash. Et puis, ils ont commencé à être bien accueillis quand même. Hein. Baptiste et Siva sont arrivés samedi. Et Nora, elle est arrivée hier soir dans la nuit. Voilà, enfin, ils ont déjà entendu parler de la qualité de l'accueil de la Calédonie.
Et avoir des invités, c'est un petit plus, et puis ça pourrait permettre de s'inscrire dans la durée, avoir comme ça des grands noms du squash national, international, qui viennent pour nos compétitions.
Oui, bien sûr, notre souhait, c'est d'offrir comme ça des petites fenêtres festives par le sport, un peu légères, de gaieté, de rencontres sportives, donc ça, c'est ce qu'on fait par le tournoi. Il se trouve que la structuration des tournois en Nouvelle-Zélande et en Australie offre aussi des opportunités peut-être de pérenniser ce type d'événement. Voilà, peut-être que dans l'année prochaine, on fera venir non pas 4, mais 6 ou 8 joueurs. L'ambition qu'on a, c'est d'installer Nouméa comme un spot de préparation et d'acclimatation des meilleurs joueurs, notamment français, et éventuellement de basculer dans quelques années sur un circuit, sur un tournoi du circuit PSA.
Baptiste et Nora, vous allez pouvoir vous confronter également voilà, à des joueurs de Nouvelle-Calédonie. Dites-nous clairement quelles sont vos ambitions. Vous allez jouer la gagne ou au contraire, vous allez voilà, y aller en détente? Il y aura également des sessions pour pouvoir s'entraîner avec les jeunes. Hein, c'est pas rien pour eux. Et Nora, c'est quoi votre...
C'est vrai que c'est un tableau mixte. Donc moi, je ne vais pas avoir l'ambition d'aller battre les garçons les meilleurs français. Là. Mais non, moi, je vois ça plus comme des bons matchs de préparation pour les tournois qui arrivent ensuite. Et puis, ouais, surtout des bons moments de rencontre et de partage avec toute la communauté du squash calédonien.
Et Baptiste, de votre côté ?
Non, bien sûr que, comme Eno l'a dit, c'est le tournoi de Nouvelle-Calédonie, c'est aussi avant tout une épreuve, une aventure humaine où on partage des moments avec les gens de Nouvelle-Calédonie, les fans de squash, etc. C'est complètement différent en termes de pression, en termes de pression de résultats par rapport aux tournois internationaux professionnels du circuit PSA. Mais cependant, quand on rentre sur le court, on a forcément envie de gagner. Quoi qu'il arrive, on va pas s'amuser à... Et puis voilà, il faut donner la bonne image de notre sport. Et enfin, voilà, on est des compétiteurs, donc forcément, si on peut gagner, on va le faire. On va tout faire pour le faire, en tout cas. Mais ça va se passer comme l'a dit Laurent, dans du respect, dans de la bonne humeur, quoi. Enfin, c'est agréable de pouvoir jouer ce genre de tournoi avant, justement, d'aller dans des tournois du circuit pro, mmh. où on peut passer une bonne semaine en s'entraînant très bien, en faisant des matchs compétitifs pour pouvoir se préparer pour les tournois qui arrivent. Voilà.
L'idée de devenir en quelque sorte, à travers ce type d'événement, des ambassadeurs, forcément vous allez en parler après autour de vous, en métropole, partout dans le monde, vous allez pouvoir parler de ce tournoi en Nouvelle-Calédonie. Déjà, vous-même, vous aviez pu en entendre parler, c'est un petit plus également, vous pensez ?
Déjà, je pense que pendant cette semaine, je pense que sur nos réseaux, on va être assez actifs aussi pour montrer un peu à tout le monde ce qu'on est en train de vivre.
Ça a déjà commencé, hein, je
pense. Voilà, et sûrement leur donner envie de venir. Donc oui, bien sûr, et puis je pense qu'on va créer des souvenirs qu'on gardera et dont on va pouvoir parler en rentrant avec tout le monde.
Et Baptiste également.
Ouais, moi c'est sûr, c'est de pouvoir jouer sur une île pareille, avec des conditions pareilles, un accueil, et puis voir surtout les gens de l'île qui sont super, super contents de nous recevoir. Donc forcément, on pourra en dire que des belles choses. Et enfin, après, moi, j'avais zéro doute. Hein, je connaissant les gens qui habitent ici et puis la beauté de l'île, de par les images, etc., qu'on a pu voir auparavant, j'avais pas vraiment de doute. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont des doutes sur la Nouvelle-Calédonie, malgré tout ce qui a pu se passer récemment. Voilà, ça, nous, on avait aussi à cœur de pouvoir venir et on n'en dira que du bien, forcément, c'est certain. Ouais.
Laurent Vendée, ça fait déjà plaisir à entendre. On en profite pour bien repasser toutes les infos pratiques aux personnes qui seront intéressées à venir voir du beau spectacle. Ça commence dès ce soir, n'est-ce pas ?
Oui, ça commence dès ce soir. Il y a une petite cérémonie d'ouverture et notamment de présentation des joueurs. Donc ça, c'est important pour le public de venir et d'écouter ce qu'on va dire sur les joueurs. Donc c'est des matchs tous les soirs, du lundi au vendredi, et le samedi, ça sera l'après-midi. Juste petite parenthèse, vous parliez des jeunes tout à l'heure. Dans le tournoi, on a 20 participants qui ont moins de 20 ans, donc c'est quand même assez important. On a l'école de squash du mercredi après-midi, qui sera animée par les invités internationaux, et donc on va se retrouver à créer du rêve pour les enfants. Moi, j'aimerais bien être à leur place, mais je ne peux pas faire le chemin arrière, puisqu'ils vont pouvoir taper la balle avec tous les sportifs qu'ils admirent d'habitude à la télé.
Ça fait plaisir de pouvoir avoir ça en plus en bonus dans cette compétition.
Voilà, donc j'invite tous les auditeurs qui ont un peu de temps, qui connaissent ou pas le squash, de venir voir un tournoi assez rare en termes de plateau. Et on va pouvoir, de visu, constater le haut niveau international.
Eh bien, le message est bien passé. En tout cas, Laurent Vendée, organisateur de ce tournoi, et également Baptiste Mazzotti, numéro 2 français. On vérifiera les classements plus tard. Et puis, Enora Villard, 3e meilleure française. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci
beaucoup.
Allez, on va terminer ce magazine des sports, Mickaël, avec le principaux résultats du week-end en bref.
Oui, tout d'abord, la rentrée des trails. Hein. C'était le Blue Bat Trail qui était organisé par Pro Events, notre partenaire, hein, hier matin au départ du Yala Range. 700 coureurs au départ, plusieurs parcours proposés. Vous avez pu entendre nos différents reportages sur la course reine de 15 km. C'est Ludovic Lanceleur qui s'est imposé devant Paul Jouffret et Samuel Conan chez les dames. Victoire d'Angélique Plaire. Hier devant Natalia Prado et Elodie Collino. Du kitesurf freestyle avec l'ANG qui organisait une compétition jeune et open sur la plage du Méridien. Ça se passait samedi. Le challenge kite Bureau Vallée, une vingtaine de participants, dont les champions du monde, Arthur Gilbert et Phoebe Rocher, qui d'ailleurs se sont imposés sur cette première manche. Prochain rendez-vous donné le 22 mars pour la deuxième étape de ce challenge kite Bureau Vallée. Il y avait également un trail pour la bonne cause. La veille du Blue Bat Trail, les foulées solidaires, ça se passait samedi du côté de Tina avec plus de 130 participants. Du cyclisme également, première course de l'année hein, déjà sur route, le critérium de Païta, ça c'était dimanche matin. Parmi les nombreux résultats, on rappellera notamment la victoire d'Hugo Pommelet du VCC Mondor, actuellement sur le territoire. Il a devancé Kéril Moutry de l'ECV et Florian Barquette du VCC Mondor. Le monde du cyclisme calédonien qui d'ailleurs apprenait ce week-end le décès de Thierry Barquette, le père de Florian Barquette, évidemment très impliqué dans toutes les courses hein, sur le territoire, qui s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, on vous en parlait également hier sur notre antenne, hein, un jeune homme qui a perdu la vie dans un accident de voiture à Lifou, Gaëtan Gop-Iwat, qui était à 26 ans un footballeur passé par le FC Auteuil d'Imbéa, l'AS Wedge, le SC Negeo et l'AS Magenta. C'est ce qu'indique aujourd'hui la Fédération calédonienne de football qui lui rend hommage. Il était aussi le fils d'une de nos collègues hein, de Radio Rythme Bleu. Au nom d'RRB, bien sûr, nous adressons nos condoléances à toute sa famille et à ses proches.
Merci Mickaël, c'est la fin de ce magazine des sports.